Tu savais que sur l'ancien billet de 500 lire italien, avant l'arrivée de l'euro, il y avait un visage très, très spécifique.
Bah, j'imagine que c'était pas un empereur romain, vu comment tu amènes la chose.
Ouais, c'est ça. Spontanément, on s'attend à un roi ou, je sais pas, un grand conquérant, mais en fait, non. Le visage gravé sur ce billet, c'était celui d'un professeur de maths de la Renaissance.
Un professeur de maths, carrément.
Ouais. Un moine franciscain de 1494, pour être précise. Et le paradoxe absolu, c'est que cet homme est devenu mondialement célèbre pour une invention qui...
Qui n'est même pas de lui.
Exactement. Qui n'est pas du tout la sienne.
C'est fou. Mais voilà un mystère historique qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Ce personnage, pour ceux qui nous écoutent, c'est Luca Pacioli.
Luca Pacioli, voilà.
Et comprendre d'où vient cette fameuse méthode qui porte aujourd'hui son nom, ça permet de démystifier un truc ultra concret pour nous aujourd'hui, les règles de notre code de commerce.
Ah oui, on fait un grand saut dans le temps, là.
C'est clair. Mais surtout, ça aide à comprendre les pièges fiscaux redoutables qui attendent n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui.
Du coup, la mission de notre exploration du jour est toute tracée. On va se plonger dans des sources fascinantes issues de Plandipro, des documents qui décortiquent l'histoire de la compta pour mieux l'ancrer dans les obligations légales françaises actuelles.
Ouais, relié à un moine italien du XVe siècle à la survie financière des micro-entreprises d'aujourd'hui, c'est un beau programme.
Je suis ravie qu'on s'y attaque. Alors, décortiquons un peu tout ça. Commençons par la question évidente. Pourquoi on attribue la paternité de la comptabilité moderne à quelqu'un qui ne l'a pas inventée?
La réponse, elle est dans la différence entre inventer un concept et le transmettre. En fait, en 1494, Pacioli publie un bouquin monumental, la Summa de Arithmetica.
Un gros pavé, quoi.
Un énorme pavé. Et à l'intérieur, il y a un traité qui codifie, noir sur blanc, la méthode de tenue de compte des marchands vénitiens.
Ok.
Sauf que Pacioli, il n'a jamais prétendu avoir inventé le truc, lui. Nos sources montrent bien que, plus d'un siècle avant ce livre, un marchand toscan qui s'appelait Francesco Dattini,
Attends, il est mort quand, lui?
en 1410, donc bien avant, hein, et ce Dattini utilisait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui la comptabilité en partie double.
Donc, attends, le père de la comptabilité, le mec sur les billets de banque, n'a jamais tenu les comptes d'une entreprise de sa vie.
Non, jamais. Il était prof. Dattini, par contre, il gérait un vrai empire commercial. Les historiens ont fouillé ses registres manuscrits et ils ont vu qu'il appliquait déjà un principe complètement révolutionnaire pour l'époque.
Qui est?
Il considérait son propre apport en capital non pas comme sa richesse personnelle à lui, mais vraiment comme une dette de son entreprise envers lui-même.
Ah d'accord, il séparait totalement sa personne physique de son entité commerciale. C'est l'hyper moderne en fait.
Exactement, c'est la base de tout.
Mais concrètement, cette fameuse partie double, d'un point de vue purement mécanique, ça fonctionne comment?
En gros, le principe, c'est d'inscrire chaque mouvement financier deux fois pour que l'ensemble s'équilibre systématiquement.
Donc un plus d'un côté, un moins de l'autre.
C'est ça, un enregistrement en emploi et un en ressources, ce qu'on appelle dans le jargon le débit et le crédit.
Ah, les fameux.
Voilà. Si l'entreprise achète de la marchandise, elle enregistre une augmentation de son stock d'un côté et une diminution de sa trésorerie de l'autre.
C'est logique en fait.
Totalement. Et cette logique, elle circulait déjà dans les cités marchandes italiennes depuis des générations. C'était un savoir-faire transmis sur le tas, de maître à apprenti. On appelait ça couramment la méthode de Venise.
Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai une analogie très contemporaine qui me vient. Finalement, Pacioli, c'est l'équivalent d'un blogueur tech ou d'un vulgarisateur aujourd'hui, non?
Comment ça?
Il observe un code source ultra puissant qui réservait à une petite élite de marchands initiés. Ces mecs gardent leurs secrets jalousement. Et lui, il arrive, il documente le code, il rédige le manuel d'utilisation et paf, il le publie en open source pour que le monde entier s'en empare.
Ah, l'analogie est super pertinente. Surtout si on prend en compte le vecteur de cette diffusion. Parce que la vraie révolution de Pacioli, elle n'est pas conceptuelle, elle est technologique.
L'imprimerie.
Exactement. Là où Francesco Dattini avait ses registres manuscrits uniques enfermés dans son arrière-boutique, Pacioli sort un livre imprimé. Un objet qu'on peut vendre, recopier, traduire.
Et diffusé partout en Europe.
C'est ça. On passe d'un apprentissage confidentiel à un savoir universel. L'échelle change du tout au tout.
Il y a un autre détail qui m'a frappé dans nos sources. Quand on regarde ce manuel imprimé, on se rend compte que c'est pas du tout un petit guide pratique pour les épiciers du coin.
Non, pas vraiment, non.
C'est un monstre de 615 pages sur les mathématiques. Et le traité de comptabilité en lui-même, il fait quoi ? 27 petites pages. 27 pages noyées dans un océan d'algèbre.
Ça confirme bien que Pacioli était d'abord un prof de maths. Ouais. Il enseignait de ville en ville, à Naples, Rome, Pise, Florence. Et le fait d'insérer la compta au milieu des maths, ça en dit super long sur la mentalité de la Renaissance.
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, on voit ça comme une corvée, un truc administratif à fuir. Ouais, alors qu'à l'époque, c'était perçu comme une extension de la logique pure. L'harmonie des chiffres. L'idée que le total des débits doit équilibrer parfaitement les crédits, ça résonnait vachement avec cette quête d'équilibre philosophique des grands penseurs.
Et cette quête d'harmonie, ça nous amène d'ailleurs à un croisement historique de dingue. En 1497, Pacioli est invité à la cour de Milan et il se met à enseigner les maths à devine qui.
Ouais, Léonard de Vinci en personne.
C'est vertigineux quand on y pense, le soi-disant père de la compta qui bosse tous les jours avec le plus grand génie de la Renaissance.
Et c'était un vrai échange, hein. C'est super bien documenté. Pacioli apprenait la rigueur et les proportions à De Vinci, et en retour, De Vinci a dessiné 60 planches magnifiques de polyèdre pour le livre suivant de Pacioli.
Donc pour eux, l'art, les maths, la géométrie, la compta, tout ça c'était le même combat en fait.
C'était le même univers intellectuel, oui. Une recherche de vérité par l'équilibre.
Bon, le portrait est magnifique, on a notre moine mathématicien, pote avec De Vinci. Mais posons la question qui brûle les lèvres de ceux qui nous écoutent. Concrètement, comment ces 27 pages de 1494 influencent l'économie aujourd'hui? Genre, demain matin, quelqu'un crée sa boîte, à quoi ça ressemble pour lui?
Bah, l'héritage est ultra direct. Aujourd'hui en France, la loi divise le paysage en deux mondes bien distincts pour la gestion des comptes. D'un côté, on a la règle classique, qui est l'héritière directe de Pacioli.
D'accord.
Et de l'autre, on a une exception moderne qui a été pensée pour simplifier les débuts.
Ok, alors commençons par le monde classique. L'héritage de Pacioli, c'est quoi exactement dans nos lois?
C'est l'article L123-12 du Code de commerce. Ce texte, il s'impose aux sociétés comme les SARL ou les SAS. Et il exige noir sur blanc d'enregistrer chronologiquement chaque mouvement, de contrôler la valeur des actifs tous les ans.
Et de faire des comptes annuels, c'est ça?
Voilà, bilan, compte de résultat et une annexe. En fait, c'est l'architecture technique exacte de la partie double de 1494. Le journal, le grand livre, la balance, tout y est.
Ok, faisons une petite pause jargon parce que on n'a pas tous fait des études d'expert comptable. Entre un bilan et un compte de résultat, c'est quoi la vraie différence?
C'est une excellente question. Le bilan, c'est comme une photo. Une photographie instantanée de l'entreprise à une seconde précise. En général, le 31 décembre à minuit.
Ok, la photo de ce qu'on possède.
Exact. Ce que l'entreprise possède face à ce qu'elle doit. Ses actifs et ses passifs. Le compte de résultat, par contre, c'est plutôt un film.
Un film qui retrace toute l'année, du coup, hein?
C'est ça. Il compile toutes les charges dépensées et tous les produits encaissés sur l'année. Le but, c'est de répondre à une seule question. Est-ce que l'entreprise s'est enrichie? Où est-ce qu'elle a perdu de l'argent?
Donc, si on crée une Sarli, on est obligé de faire vivre ce rêve vénitien tous les jours. Photos et films financiers obligatoires. C'est lourd.
Très lourd. Et c'est pour ça qu'il y a le deuxième monde légal, l'exception. Celle que la plupart des entrepreneurs choisissent au début.
Le fameux régime de la micro-entreprise régi par l'article 50.0 du Code général des impôts.
Exactement. Et là, c'est le bonheur. La loi dit qu'un simple livre des recettes chronologiques suffit. Pas de bilan, pas de compte de résultat, pas de grand livre. La partie double Pacioli, on l'oublie complètement.
Donc le micro-entrepreneur, il vit dans un monde pré-Pacioli en fait. Un monde antique où on note juste l'argent qui rentre sur un carnet le soir. Mais pourquoi l'État est aussi indulgent? D'habitude, le fisc, ils sont plutôt à cheval sur les flux financiers.
Ah mais c'est pas de la gentillesse, hein. C'est une logique purement fiscale. Tout vient de la façon dont on calcule l'impôt. Dans le régime classique, on te taxe sur ton bénéfice réel, ton chiffre d'affaires moins tes charges réelles.
D'où le besoin de prouver chaque dépense au centime près.
Voilà. Alors qu'en régime micro, l'impôt est calculé sur un abattement forfaitaire.
Attends, pour être sûr qu'on capte bien la mécanique, prenons un exemple concret. Si j'encaisse 1000 euros, comment ça marche cet abattement?
Bah, l'administration prend tes 1000 euros de recettes et au lieu de te demander tes factures d'achat, elle va juste déduire un pourcentage fixe prévu par la loi. Imaginons que ce soit 50%.
Ok.
L'État considère d'office que tu as eu 500 euros de frais, sans aucune preuve. Et ils vont calculer tes impôts uniquement sur les 500 euros qui restent.
Ah, d'accord. Donc, vu que le fisc s'en fiche du montant exact de tes dépenses réelles, t'imposer une compta en partie double, bah, ça n'aurait aucune utilité pour eux.
C'est ça. Le carnet de recettes leur suffit amplement.
C'est implacable, mais bon, nos sources alertent sur un point critique. Cette simplicité apparente, c'est un peu un écran de fumée. Parce que le danger, c'est pas de rester dans la micro-entreprise. C'est quand le succès arrive et qu'il faut brutalement basculer dans le monde de Pacioli.
Ah, le fameux gouffre des seuils. Les sources illustrent ça très bien avec un cas juridique super parlant, leur aventure d'Isabelle.
Oui, l'histoire de la pizzeria. Déroulons un peu ça. Isabelle, elle ouvre sa pizzeria. Elle se met en micro-entreprise pour éviter la paperasse. Jusque-là, tout va bien. Elle a juste son cahier de recettes, elle facture pas la TVA. La vie est belle.
La vie est très belle, surtout que ses pizzas cartonnent. Sur Instagram, c'est la folie, les clients affluent, son chiffre d'affaires explose. Et c'est là qu'elle va se manger deux plafonds Lego très différents, des plafonds que beaucoup de créateurs confondent malheureusement.
Commençons par le premier, le seuil de la TVA. Que se passe-t-il quand elle dépasse cette limite-là ?
Dès le mois suivant, bim, elle perd son exemption. Elle a l'obligation légale de collecter la TVA sur chaque pizza et de la reverser à l'État.
Donc soit elle augmente ses prix, soit elle rogne sur sa marche. Sans parler de la déclaration fiscale en plus à faire.
Ouais, c'est clair que c'est du boulot en plus. Mais, et c'est là qu'il y a une grosse nuance, elle garde quand même sa compta allégée. Son petit carnet de recettes est toujours valide.
Ouf.
Et mieux encore, vu qu'elle collecte la TVA, bah elle gagne le droit de la récupérer sur ses propres achats.
Ah oui, genre si elle s'achète un gros four professionnel à 5000 euros.
Exactement. Sur son four, sur sa farine, elle peut déduire la TVA. À condition de bien garder ses factures, évidemment.
Donc ce premier seuil de TVA, c'est des turbulences, mais c'est gérable. Elle garde son carnet et elle y gagne sur ses investissements.
Tout à fait.
Par contre, le vrai choc, le ravin dont parlent les sources, c'est le deuxième plafond. Le plafond du régime micro lui-même.
Là, on rigole plus. C'est là que le manque d'anticipation pardonne pas. Si Isabelle continue de grandir et pète le plafond autorisé pour le régime micro, elle bascule d'office au régime réel.
Et ça se fait pas en douceur, j'imagine.
Zéro pédagogie. Du jour au lendemain, la protection de l'article 50.0 saute et toutes les exigences de l'article L123-12 lui tombent sur la tête.
C'est violent, hein ? C'est vraiment comme passer d'un tricycle à un Boeing 747 en plein vol. D'un coup, on te dit plus d'avancer au feeling. Tu dois surveiller l'altitude, le carburant, la pression. Pas d'entraînement. Isabelle, d'un coup, on exigeait d'elle un bilan, un compte de résultats, des amortissements pour son four et la fameuse partie double.
C'est exactement ça. L'image du Boeing est parfaite. Mais tu sais pourquoi la loi exige soudainement tout ça ?
Vas-y, dis-moi.
Parce que quand tu grandis à ce point, la trésorerie ne reflète plus du tout la santé réelle de ta boîte. En micro, tu regardes ton appli bancaire, tu vois 10 000 euros, tu te dis « génial, je suis riche
ouais. ».
Sauf que si tu as 50 000 euros de dette fournisseur qui tombe le mois d'après, ton carnet de recettes, il masque complètement cette dette mortelle.
Ah oui !
Alors que la compta en partie double, en équilibrant chaque opération, elle révèle cette vérité.
Donc, la plus grande erreur quand on crée une entreprise, ce serait pas de faire un mauvais produit. Le produit d'Isabelle, il est top. L'erreur fatale, ce serait de traiter cette mécanique comptable comme, je sais pas, un vague détail administratif qu'on repousse à plus tard.
C'est ça. Ne pas anticiper les règles du jeu, c'est littéralement risquer la faillite, même avec un carnet de commandes qui déborde. C'est le paradoxe de la croissance. Tant que tu voles bas, le carnet suffit. Mais dès que tu prends de l'altitude, la méthode de Venise s'impose. C'est le seul moyen de sécuriser les flux financiers complexes.
Ce principe de continuité depuis 1494, je trouve ça vertigineux. Finalement, la partie double n'a pas été inventée pour punir les indépendants, quoi.
Non, c'est vraiment une architecture logique perfectionnée par des générations de marchands.
Pour conclure cette analyse, on voit bien que c'est bien plus qu'une anecdote historique marrante. C'est une question de survie stratégique. Aujourd'hui, on sait comment appliquer la compta, on a des logiciels pour ça. L'enjeu vital pour quiconque crée une boîte aujourd'hui, c'est de savoir quelle loi s'applique à lui à l'instant T.
Ouais, suis-je sous l'article 50.0.0 ou le L123-12-1 ? Faut vraiment dissiper une confusion. La légèreté du régime micro, c'est pas une dispense totale de gestion. Tenir son livre de recettes, c'est obligatoire, c'est pas une option. Suivre sa progression, c'est ce qui permet d'anticiper les seuils, de prendre un expert comptable à temps et d'éviter le mur de briques.
Prenons juste un dernier instant pour mesurer l'ironie de l'histoire de Pacioli. Son héritage colossal, sa présence sur les billets de banque, tout vient d'un simple acte de transmission. Il a couché sur papier une méthode informelle que tout le monde utilisait déjà sans jamais l'avoir théorisée.
Il a utilisé l'imprimerie pour transformer un standard de fait en un standard de droit. Et ça a traversé 5 siècles.
C'est une vraie réflexion pour nous aujourd'hui. Avec le numérique, le travail à distance, on peut se demander quelle est la méthode de Venise de notre époque.
Bonne question.
Quelle pratique d'organisation tout le monde utilise officieusement, dans l'ombre aujourd'hui, et qui attend juste que le Pacioli du XXIe siècle la publie pour figer les règles des 500 prochaines années. Il va falloir garder l'œil ouvert. La prochaine révolution s'écrit peut-être sous nos yeux. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de la comptabilité avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.